Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Emmanuel Macron veut supprimer l'ENA. L'École nationale d'administration serait remplacée par un nouvel établissement, mais sans le classement de sortie qui assure aux élèves les plus brillants un emploi à vie dans les grands corps de l'État. Vers un impôt minimum mondial, une taxe plancher qui s'appliquerait à toutes les multinationales dans tous les pays. Le projet, qui était bloqué par Trump, vient d'avoir le soutien du gouvernement Biden. Nous vous dirons précisément ce que l'on sait du lien entre le vaccin AstraZeneca et les très rares cas de thrombose constatés en Europe. Et on vous expliquera pourquoi l'Allemagne décide de discuter directement avec la Russie de l'achat éventuel de vaccins Sputnik. Dans l'actualité, la disparition d'Aurélie Vaquier il y a 2 mois dans l'Hérault, son corps retrouvé, son compagnon en garde à vue. Le débat empêché ou entravé sur l'euthanasie à l'Assemblée nationale. Et puis nous reviendrons sur l'exploit des Parisiens hier soir à Munich, 3-2 face au Bayern. Invité d'Europe Midi, l'historien Jean-François Cirinelli qui publie « Ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble » chez Talendier, constat de la perte de la civilisation républicaine.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le monde qui change, c'est cette révolution fiscale annoncée pour les mois à venir avec le feu vert décisif de l'administration Biden pour un impôt minimal mondial. C'est un projet porté par l'OCDE depuis des années que Donald Trump avait bloqué et qui pourrait faire rentrer chaque année dans les caisses des États plusieurs dizaines de milliards de dollars aujourd'hui mis à l'abri par les multinationales dans les paradis fiscaux, Emmanuel Dutheil.
Oui, et pour une fois, le terme de Big Bang fiscal n'est pas galvaudé. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises, particulièrement les plus grosses et les plus rentables, tiens, comme c'est étonnant, et parmi elles, les fameux GAFA américains, Google, Facebook et compagnie, installent leurs sièges sociaux là où la fiscalité est très douce, mais des pays dans lesquels ces entreprises font très peu de chiffre d'affaires. On peut citer en Europe, hein, l'Irlande ou le Luxembourg. Eh bien, si cette réforme passe, ce sera beaucoup moins intéressant de le faire puisqu'il y aura un impôt dans tous les pays. L'idée de ce Big Bang, c'est en effet de faire payer des impôts aux entreprises partout où elles font de gros profits. Prenons l'exemple, il y a à nouveau de Google, mais pourquoi pas d'Airbnb aussi? Eh bien maintenant, si cet impôt passe, ils seront obligés de payer vraiment des impôts sur la réalité de ce qui est vraiment vendu en France. Et je peux vous dire que ça changerait tout, mais c'est vrai pour toutes les entreprises, hein, pas uniquement pour les entreprises du numérique. Prenons peut-être là l'exemple de Starbucks, vous savez, les fameux cafés. Eux aussi, ils ont beaucoup joué ces dernières années sur l'optimisation fiscale. Si ça se passe, comme vous le disiez Patrick, hein, ce sont des dizaines de milliards d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses. Ça tombe bien, ce serait une petite aide pour aider à payer la facture Covid. Et c'est ce qui a aussi permis de faire avancer cette réforme. Mais attention, hein, les obstacles sont encore nombreux. Reste à définir notamment le taux de cet impôt global. Du côté de l'OCDE, on dit espérer aboutir à tout cela à l'horizon de l'automne. Mais comme vous le savez, le diable se cache souvent dans les détails. Et là encore, je peux vous dire que sur ce point-là, l'expression est loin d'être galvaudée.
Oui, oui, mais l'automne, c'est pas très loin. Et puis l'impôt minimal, ce serait un peu plus de 20%, hein, à peu près.
Effectivement. C'est ce que souhaitent les États-Unis, mais ça pourrait être inférieur. On est plutôt sur 15-17 pour le moment.
Emmanuel Dutheil, merci. La France qui change, ce serait une France sans ENA. Emmanuel Macron présente cet après-midi sa réforme de la haute fonction publique avec une promesse lâchée il y a 2 ans, en pleine crise des Gilets jaunes, la suppression de l'École nationale d'administration. L'ENA serait remplacée par un nouvel établissement qui continuerait de former des hauts fonctionnaires, mais sans l'emploi garanti à la sortie dans les grands corps de l'État. Qu'est-ce que ça changerait, Louis de Ragnel ?
Eh bien, si la réforme de l'ordonnance de 1945 qui organise le fonctionnement de l'État est véritablement actée avant la fin du quinquennat, il en sera donc fini du classement de sortie de l'ENA. Un classement qui permet aujourd'hui aux élèves les plus brillants d'avoir une quasi-garantie à vie d'occuper les plus beaux postes de la fonction publique, par exemple au Conseil d'État, à la Cour des comptes ou encore à l'inspection des finances. Autre nouveauté, les futurs hauts fonctionnaires seront issus de parcours plus diversifiés, avec notamment plus d'étudiants venant des universités et moins de Sciences Po. Emmanuel Macron souhaite également s'attaquer à la réforme des carrières, en encourageant les mutations, en cassant les logiques de corps et de rente à vie. Les hauts fonctionnaires seront mieux évalués et surtout seront affectés à une mission en fonction de leur profil et des besoins de l'État, et plus sur le seul critère de leur classement à la sortie de l'école. Et si ça ne convient pas, eh bien, on pourra leur proposer une rupture conventionnelle. À travers cette réforme, le président a bien l'intention de répondre aux critiques d'hypercentralisation du pouvoir et de défaillance de l'État central pointées par la crise sanitaire. Enfin, sur le plan politique, Emmanuel Macron veut surtout priver d'arguments ses futurs adversaires politiques à l'élection présidentielle de 2022 qui critiquent sa gouvernance, souvent entourée de fonctionnaires déconnectés des réalités.
Pour l'école à la maison, le CNED se dit de nouveau la cible de cyberattaques, service perturbé pour le troisième jour consécutif hier. Hier, le parquet de Paris avait ouvert une enquête. Pour les vaccins, succès et défiance. Le succès, c'est la vaccination record de la journée d'hier, avec près de 400 000 injections réalisées en France. La défiance, c'est celle qui entoure AstraZeneca avec cette notion abstraite de bénéfice-risque avancée par toutes les autorités de santé face au lien maintenant avéré entre l'injection du vaccin et quelques très rares cas de thrombose en Europe, Anne Le Gall.
Oui, à ce stade, impossible de dire si l'âge, le sexe ou certains antécédents médicaux favorisent ces thromboses, mais effectivement, les caillots sanguins devraient être répertoriés désormais comme un possible effet secondaire rare du vaccin, a indiqué hier l'Agence européenne du médicament. Mais les experts insistent, ces thromboses sont extrêmement rares. Les experts indiquent 222 cas, dont 18 décès sur 34 millions d'Européens vaccinés. Le risque est donc de 6 cas pour 1 million. À titre de comparaison, le risque de thrombose avec une pilule contraceptive de troisième génération est de 400 cas pour 1 million, c'est 60 fois plus. Et rappelons aussi que lors d'un voyage en avion de plus de 8 heures, le risque de thrombose est de 250 pour 1 million, c'est 40 fois plus qu'avec le vaccin AstraZeneca. L'agence européenne laisse désormais aux États le choix de l'utilisation optimale de ce vaccin. En France, la HAS devrait se prononcer très vite sur le maintien de l'utilisation chez les plus de 55 ans ou passer la limite aux plus de 60 ans, comme en Allemagne.
Anne Le Gall, l'actualité des vaccins, c'est aussi en Allemagne ce mouvement en faveur du produit russe Sputnik. La Bavière négocie un contrat et le ministre allemand de la Santé lui emboîte le pas ce matin en évoquant de futures discussions avec Moscou hors du cadre européen. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin.
Oui, effectivement, le ministre de la Santé précise, il envisage bel et bien de négocier en bilatéral, mais attention, d'abord, il attend le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Toutes les démarches allemandes seront annulées immédiatement si le Sputnik n'est pas homologué. Jens Spahn veut aussi des gages sur le calendrier de livraison de ce vaccin, car tout contrat passé pour des doses qui arriveraient après le mois de juillet ne servirait à rien, explique-t-il. Il y aura alors à ce moment-là, sur le continent européen, suffisamment d'autres doses, d'autres vaccins. Il n'empêche, ça donne l'impression que l'Allemagne fait cavalier seul. Alors là, prudence, oui et non, car on l'a appris hier soir d'une source à la Commission européenne, pour le Sputnik, il n'y aura pas de contrat commun aux 27. Une fois que ce vaccin sera homologué, s'il est homologué, chaque pays européen devra passer commande de son côté. La décision leur revient. Pour Berlin, le Sputnik est un outil comme un autre pour lutter contre le virus et donc on anticipe, tant pis pour l'unité de l'Europe, surtout qu'au sein de l'Allemagne même, cette unité vole déjà en éclats, puisque sans attendre la décision du gouvernement de Berlin, la Bavière a signé hier un contrat de précommande pour 2,5 millions de doses de Sputnik qui seront produites sur son sol dans une usine bavaroise. Tout ça est très politique à 6 mois des élections, car le patron de la Bavière, Markus Söder, aimerait bien devenir chancelier en septembre.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La suite dans un instant, débat sur l'euthanasie, affaire Aurélie Wauquiez et le PSG qui terrasse le Bayern.
Europe Midi, Patrick Cohen.
À l'Assemblée nationale, cet après-midi, un débat entravé sur l'euthanasie. La proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie, soutenue par près de 300 députés, n'aura probablement pas le temps d'être votée à cause des 3000 amendements déposés par une poignée d'élus LR. Obstruction largement dénoncée, mais absolument imparable. Sur le fond, les médecins sont nombreux à dénoncer un débat précipité, un sujet qui mérite mieux qu'une discussion improvisée et une loi de rupture. Jean-Marie Gomas est président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
Pour nous, cette loi est choquante dans sa rédaction, dans sa transgression des valeurs fondamentales de l'individu et puis dans ce contexte sanitaire. C'est un projet de loi compliqué, mal ficelé. C'est pas une simple évolution de la loi Leneti, c'est une transformation radicale du rapport à la vie de l'autre. Il ne faut pas changer la loi tant que l'arsenal, l'appareil législatif et réglementaire parfaitement mis en place, notamment par les deux lois Leonetti, tant que ces lois et ces recommandations ne sont pas mises en place, il ne faut évidemment pas bouger l'appareil législatif. On n'a même pas évalué correctement la loi Claeys-Leonetti. Il y a encore énormément de services et de médecins qui n'ont pas compris la logique de la sédation profonde et continue. Donc c'est vraiment pas le moment d'impressionner le grand public avec des phrases toutes faites. Oui, certes, il y a des agonies qui semblent longues. Oui, certes, il y a des douleurs non contrôlées. Mais occupons-nous d'accompagner ces patients avant d'imaginer faire des transgressions et des entorses à un respect de la vie qui est séculaire dans notre pays.
Propos recueillis par Victor Dolande à Bédarieux, dans l'Hérault, 2 mois après la disparition mystérieuse d'Aurélie Wauquiez. Son corps a été retrouvé à son domicile sous une dalle de béton. Son compagnon est en garde à vue. Il est fortement soupçonné, Gladys Laffitte.
Ah oui, selon son compagnon, elle avait quitté leur domicile sans moyen de paiement, sans moyen de locomotion, seulement avec son téléphone et quelques vêtements. Et ce n'est que 3 semaines plus tard qu'il a signalé sa disparition. Certains proches d'Aurélie Vaki avaient reçu un étrange message évoquant un désir de retraite littéraire. Arnaud est l'un de ses amis, il n'a jamais cru à cette thèse. Pour lui, tout sonnait faux dans l'attitude de son compagnon de 39 ans.
On le sentait. Au fond de nous, on le savait. Il y avait beaucoup de choses entre les dires et les faits qui rentraient en contradiction. Donc beaucoup de mensonges. Il habitait là et il habite toujours là. Et nous, on y est allé plusieurs fois alors que le corps était en dessous. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Voilà.
Les policiers ont jusqu'à demain midi pour interroger le compagnon de la jeune femme. Les analyses ADN et une autopsie doivent maintenant confirmer à 100% que le corps retrouvé est bien celui d'Aurélie Vaquier, même si les enquêteurs ont peu de doutes grâce à un tatouage très reconnaissable et un piercing découvert sur le corps.
Football, impossible de ne pas revenir sur l'exploit du Paris Saint-Germain hier soir à Munich face à une équipe présentée hier, ici même, comme quasi invincible. 3-2, un gardien, Navas, encore une fois héroïque, et à l'attaque, un duo magique Mbappé-Neymar. Julien Froment.
Effectivement, quand on a posé hier la question avant le match à Mauricio Pochettino sur le rôle de Mbappé et Neymar contre le Bayern, eh bien l'entraîneur parisien s'était réfugié derrière le sacro-saint collectif. Mais aujourd'hui, le constat est là. Oui, le Paris Saint-Germain était résilient, combatif, solidaire, mais ce sont ces deux stars qui ont fait la différence. Neymar, tout d'abord, 2 passes décisives parfaites. Le Brésilien a joué simple au service de ses coéquipiers. Quant à Mbappé, même le ciel enneigé ne semble pas être une limite pour lui. 2 nouveaux buts face à la référence mondiale, le Bayern. Le Français, déjà 8 réalisations dans la plus prestigieuse des compétitions, a franchi un nouveau palier. Il est désormais à la table des plus grands. D'ailleurs, la presse allemande est unanime à son sujet. Mbappé est, je cite, un joueur de classe mondiale qui a su faire la différence, rappelle le Süddeutsche Zeitung. Mais pas le temps de savourer pour lui. Il faut déjà penser au match retour et encore une fois confirmer mais la semaine prochaine au Parc des Princes pour tenter de décrocher la 3e demi-finale de l'histoire du PSG en Ligue des Champions.
Julien Froment, merci. Le temps, Anissa Dadil, le soleil s'impose cet après-midi.
Oui Patrick, même si sur les régions situées au nord de la Seine, la Normandie, la région parisienne, les Hauts-de-France et puis les Ardennes, nous avons encore quelques passages nuageux. Regardez par la fenêtre sur votre droite, Patrick, je peux vous dire que les rayons de soleil sont en train d'arriver. Ils seront nettement plus généreux sur la moitié sud du pays où là, l'après-midi sera très lumineuse, très agréable, dans un froid quand même glacial. On l'a bien senti ce matin, on a encore battu des records de froid ce matin, mais cet après-midi, grâce au soleil, ça va remonter un petit peu. On aura 22 degrés à Biarritz, 21 à Mont-de-Marsan et Cahors, 20 degrés pour Bordeaux, 19 à Brive-la-Gaillarde, c'est dans le sud-ouest qui fait le plus doux, 16 degrés à Marseille et Bastia, 14 à Rennes, 13 enfin pour Paris et 10 degrés, la minimale pour Cherbourg.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Notre civilisation républicaine, ce qui fait notre vivre ensemble depuis plus d'un siècle, est-elle en train de disparaître? L'historien Jean-François Cirinelli publie « Ce monde que nous avons perdu ». Il est notre invité dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Jean-François Cirinelli.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous avez été professeur à Sciences Po Paris pendant 20 ans, vous avez dirigé le centre d'histoire de Sciences Po, vous êtes un spécialiste reconnu de l'histoire politique et culturelle de la France au XXe siècle, et c'est un regard inquiet et assez nostalgique que vous portez sur notre pays dans ce livre important, Ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble chez Talendier. Alors bien sûr, il y a un peu d'ironie ou un télescopage involontaire à raconter ce que nous avons perdu, autant des gestes barrières et de l'interdiction de se retrouver ou de festoyer, autant où le vivre ensemble n'a jamais été aussi compliqué, mais votre réflexion est infiniment plus large. Ce qui est en train de se perdre, selon vous, c'est notre civilisation républicaine. Comment la définiriez-vous ?
C'est un peu justement l'objet de ce livre que de la définir, parce qu'elle est le produit d'une histoire. Donc, si vous voulez, je ne pars pas d'une définition préétablie, mais j'essaye de voir comment cet écosystème, cet équilibre entre un régime, la République, mais aussi une société en marche, une société qui a connu en son sein, en plusieurs générations, ce qu'on peut appeler la promotion républicaine, mais aussi des valeurs, des normes, et enfin un sentiment d'appartenance. Donc pour répondre à votre question, c'est autour de ces quatre traits que j'aurais tendance à définir cette civilisation républicaine.
Mais vous le faites vous-même remarquer, dans nos débats publics, ces valeurs et ces normes ne cessent d'être invoquées. Quand vous dites cette civilisation républicaine, elle est, c'est notre nappe phréatique, est-ce qu'elle est asséchée? Nos débats ne cessent de puiser dans ces principes-là, l'école, est-ce qu'elle devrait être, la laïcité, etc. Vous le constatez.
Oui, vous avez raison. Et en même temps, j'ai essayé de me méfier de la nostalgie. Tout individu a le droit à la nostalgie, toute société a droit à la nostalgie, mais en même temps, le travail d'un historien, c'est pas de faire une reconstitution à la Viollet-le-Duc. Je dois pas, dans ce livre, décrire la République telle qu'elle devrait être, en quelque sorte. Donc j'ai essayé de voir comment ça s'est constitué. Je pense réellement qu'il y a eu, pendant presque un siècle, vous le disiez tout à l'heure, une sorte d'équilibre. Alors, est-ce que c'est une parenthèse à l'échelle des millénaires? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui va nous permettre de rebondir? Est-ce que ce monde dont je dis que nous l'avons perdu, et qui est d'ailleurs le monde d'hier, car la plupart de nos auditeurs ont connu une partie de ce monde, baigne encore, pour ceux qui sont les plus âgés, dans les fibres de ce monde, dans le tissu de ce monde, mais dans le fond, qu'en est-il? Y a-t-il, dans le fond, vous parliez d'inquiétude, y a-t-il de la part de cet écosystème capacité non seulement de sursaut, mais de rebond?
Dans les premières pages de votre livre, Jean-François Sirignelli, vous parlez d'un éboulement du vivre ensemble, d'une irrésistible dégradation, et vous saisissez, pour illustrer cela, les paroles de Gérard Collomb, à son départ du ministère de l'Intérieur, qui avait parlé d'une société du côte à côte, et en craignant qu'elle ne se transforme en face à face. C'est comme
J'avais
ça qu'on peut le résumer.
Très impressionné, effectivement, par ces paroles, d'autant qu'il ne nous avait pas habitués lors de ses fonctions à un ton aussi, je dirais pas martial, parce qu'on sentait bien que ça venait, si j'ose dire, du fond du cœur. Et c'est intéressant de voir comment, de la part d'un ministre de l'Intérieur, il y a cette notion de côte à côte, qui est déjà un constat presque d'échec pour le sentiment d'appartenance, et bientôt de face à face. Et donc c'est vrai que ça a été l'un des stimuli, pas le seul, pour me conduire à réfléchir en historien, en quelque sorte. Non pas pour faire simplement un diagnostic, encore moins un pronostic, mais pour voir où nous en sommes. Nous sommes sur un chemin, en quelque sorte, et c'est ce chemin que j'ai essayé de retracer.
Chemin qui a été balisé, il n'est pas le seul, mais balisé notamment par Jérôme Fourquet dans son livre sur l'archipel français, l'archipélisation de la France.
Tout à fait, c'est toujours impressionnant de voir comment un livre, au demeurant de grande qualité, est à la fois un succès, mais aussi un marqueur, car on sent bien qu'à partir de ce moment, même dans le débat politique, la façon d'analyser quelquefois les questions a changé, sinon de teneur, en tout cas de tonalité et de vocabulaire. Donc c'est un livre qui est un livre important.
Ce que vous retracez, évidemment, c'est une évolution longue, avec des périodes de crise et puis des périodes de régénération, comme après la Seconde Guerre mondiale, où la République se régénère en mettant en place tout un tas de mécanismes sociaux. Mais le temps s'est accéléré, écrivez-vous, ces dernières années, avec une série d'événements, trois principalement: les attentats de 2015, la présidentielle de 2017 avec le phénomène Macron et ce dégagisme, les 10 millions de voix pour Marine Le Pen au second tour, et le mouvement des Gilets jaunes. Ce sont trois événements qui, à vos yeux, Jean-François Sirignelli, ont accélère cette dégradation.
En tout cas, elles sont les symptômes. Un révélateur et probablement, à bien des égards, un accélérateur. Je crois notamment que le mouvement des Gilets jaunes est quelque chose d'essentiel, car, comme j'essaye de l'analyser dans le livre, c'est une forme, à l'époque de la République romaine, une autre république, donc on a parlé à un moment donné de la sécession de la plèbe, c'est-à-dire qu'il y avait des luttes sociales avec ce qu'on appelait à l'époque le patriciat, et du coup, la plèbe, le mot n'est pas péjoratif, ça veut dire ceux qui n'appartenaient pas au patriciat, la plèbe a fait sécession et monté sur l'Aventin. Et donc, plutôt que l'image de l'archipel, dont Jérôme Fourquet est propriétaire, moi, ce qui, je dirais, presque me hante en tant qu'historien, c'est cette république où il y a désormais un Aventin, où une partie du corps social a fait sécession parce qu'il s'estime, à tort ou à raison, après chacun est libre d'en juger, rejeté en quelque sorte de la cité. Mais ce qui me trouble encore plus, c'est que j'ai le sentiment que, entre guillemets, les élites sont en train aussi de gagner un autre avantage. Et vous voyez que la République, c'était le sentiment d'appartenance, c'était le « nous ». Et une République avec deux avantages est une République probablement à bien des égards malade.
Les attentats de 2015 ont aussi provoqué ce qui a été vu comme une forme de sursaut républicain, la grande manifestation, les grandes manifestations du 11 janvier 2015, qui ont été perçues comme l'expression très forte d'une volonté de vivre ensemble.
Je crois. Moi, je les ai perçus comme tels et je crois qu'il y a peu de précédents dans l'histoire. On a souvent comparé avec les fêtes de la Fédération au début de la Révolution française. Et à bien des égards, c'est vrai que ce moment de janvier 2015, par-delà naturellement le tragique de l'histoire, et justement en raison de ce tragique de l'histoire, est quelque chose qui doit d'ailleurs nous porter à l'optimisme pour ce qui est de notre capacité à résister ensemble. Car vivre ensemble, c'est bien, mais il y a des moments, par exemple lors des guerres, où il y a le phénomène de mourir ensemble, ou en tout cas de résister ensemble. Donc tout n'est pas noir, en quelque sorte, dans le constat que j'essaye de brosser, mais c'est vrai que j'ai laissé courir mon inquiétude, parce que c'est le rôle, dans le fond, d'un historien, mais aussi d'un intellectuel, entre guillemets, que d'essayer de donner du sens à ce qu'il observe, à partir de sa discipline, bien évidemment.
Votre inquiétude, elle se nourrit aussi de l'évolution du débat public. Le peu de référence à l'intérêt général, ça vous le pointez, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, la propension à considérer les adversaires politiques comme des ennemis. Ça, ce sont les signes de la dégradation de notre civilisation républicaine.
Tout à fait, puisque la civilisation républicaine, il ne faut pas qu'on commette les uns et les autres un contresens, ça n'était pas d'être d'accord ensemble.
Non. Vous citez cette phrase magnifique d'Alfred
Sauvy, c'est de savoir être en désaccord, en quelque sorte, être désuni et de gérer en quelque sorte cette désunion. Et ce qui me frappe, vous le disiez à l'instant, ce qui nous frappe tous d'ailleurs, c'est actuellement que l'interlocuteur n'est plus simplement l'adversaire, ce qui à la limite en politique se conçoit, mais est devenu l'ennemi. Et je suis frappé, mais comme tout le monde, par cette violence en quelque sorte, qui est à l'inverse de la République. Et vous parliez par ailleurs de l'intérêt général. Ce qui frappe actuellement, c'est cette dissolution en quelque sorte de l'intérêt général, non seulement dans les comportements individuels, mais dans le discours politique. C'est ça qui est très inquiétant pour l'avenir.
Ce syndrome de la perte, comme vous dites, Jean-François Cirinelli, vous le voyez aussi dans le vocabulaire, quand Emmanuel Macron répète « nous sommes en guerre » alors que ça n'a rien à voir avec la guerre, l'historien que vous êtes, et sans doute aussi le citoyen, ne peut manquer de sursauter.
Oui, ça m'a un petit peu troublé. L'historien n'est pas là pour donner des leçons de bonne conduite politique ou républicaine.
Il peut dire si les mots sont justes.
Mais effectivement, là j'ai été très frappé par cet usage, six fois réitéré d'ailleurs, et j'ai été frappé aussi par ce mot, alors ça n'a pas de rapport, mais de François Hollande, arrivant au Mali et décrétant devant une foule en liesse qui l'acclamait, c'est le plus beau jour de ma vie. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas d'ironiser, au nom de quoi le ferais-je, mais de constater que de toute façon, nous avons deux ou trois générations de responsables politiques qui n'ont pas, et tant mieux pour eux, connu la guerre, mais qui se trouvent dans une situation où revient le tragique de l'histoire. Et donc, la suite est à écrire, en quelque sorte, et par ces générations-là.
Et ces présidents, c'est ce que vous dites, on perdu le tragique de l'histoire, ou le sens du tragique. Le titre de votre livre, Ce monde que nous avons perdu, laisse entendre que cette perte est irrémédiable, ou bien vous auriez pu titrer Ce monde que nous sommes en train de perdre.
Vous avez raison, j'aurais dû mettre monde que nous sommes en train de perdre.
Long.
C'est une allusion à un vieux livre d'un historien britannique qui s'appelait Peter Laslett et qui avait écrit Ce monde que nous avons perdu au sujet de l'Angleterre pré-industriel.
Merci Jean-François Cirinelli, on a fait qu'effleurer votre livre beaucoup plus riche et prudent que ce que j'ai pu en dire. Ce monde que nous avons perdu, une histoire du vivre ensemble chez Talendier.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Le 13h de Christophe Lamarre à suivre dans un instant, puis La France bouge. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.